Chapitre 2. Fin de bal. Devant la grande cour du ministère, toute blanche et craquante de givre, éclairée comme en plein soleil par les hauts lampadaires de sa grille large ouverte, les ifs lumineux espacés en quinconce et le silencieux flamboiement des fenêtres de la façade, quelques rares équipages attendaient encore au long du quai. Hâtive et frileuse, de temps en temps, une ombre descendait le vaste perron gardé par deux cavaliers, immobiles sous leurs manteaux poudrés de giboulées. Derrière cet invité, qu'on pouvait croire chaque fois le dernier, la lourde porte vitrée retombait du même poids que les valets de pied sur les banquettes d'antichambre où ils reprenaient leur somme interrompue, tandis qu'à travers l'enfilade des salons allumés et déserts s'entendaient des bouffées sonores de chants et de pianos, écho suprême de la fête réfugiée au premier étage après l'abandon du rez-de-chaussée. Dans le vaste escalier décoré de palmes et de roses, embaumé et tiède comme une serre qui faisait communiquer les deux réceptions, un berger watteau, M. Wilkie Marquez, secrétaire particulier du ministre, fournissait des renseignements à deux habits noirs dont l'un dessinait pour le graphique et l'autre prenait des notes rapides sur un carnet de reporter. Attardé par l'inauguration d'une statue de Jacquard à Lyon, ces deux messieurs étaient arrivés trop tard pour assister au menuet, qu'on avait pourtant dansé deux fois, la première dans les salons du rez-de-chaussée, la seconde pour les spectateurs de l'étage. Le plus joli moment de la soirée, celui que je vous engage à donner dans le graphique, le secrétaire particulier, un petit monsieur glabre et mince, à tête de vieille fille, parlait d'un air supérieur au dessinateur de la feuille anglaise, un colosse qui le dépassait de tout le buste. Le reporter était quelconque. C'est le moment où les deux quadrilles, marquises et bergères, de quatre couples chacun, ont fait l'ascension de cet escalier, suivi d'un orchestre de hautbois et de violons qui jouait le menuet de Mozart. Chaque couple monté apparaissait peu à peu, rythmant ses gestes et ses pas. Et de l'avis de tous, ces mouvements, cette musique, le chatoiement des satins sous les lustres, la nacre des pommeaux d'épée, la dorure des houlettes, rubans, chaperons, catogans, on n'a jamais rien vu de plus adorable.
« Quelques noms, je vous prie, » demanda le reporter.
Le secrétaire répondit, le nez dans une des grandes roses jaunes qui enguirlandaient la rampe. « Quadrille des marquises, conduit par ma sœur Florence, la belle-fille du ministre, et son fiancé, Claudius Jacquand, le fils du sénateur et grand manufacturier de Lyon, que vous avez dû voir, là-bas, à l'inauguration dont vous venez. C'est un peu pour ces jeunes gens que notre fête était donnée. Dans le même quadrille, mademoiselle Nadia Déjarine, la fille du général russe, l'ancien préfet de police de Pétersbourg. Quadrille des bergères, Hélène Molin de Luis, fille du ministre de l'Agriculture, remplacée au dernier moment par mademoiselle Dina E, une étoile nouvelle au ciel parisien, dont j'ai eu l'honneur d'être le babinet à houlette. Il cligna de l'œil, fronça ses lèvres sèches pour souligner son mot, le babinet à houlette. Les affaires étrangères n'en entendent pas souvent de ce calibre. À signaler encore dans le quadrille des bergères, Jeannine Briand, nièce de Marc Javel, un ministre d'hier et de demain. Octavie Roumestan, la fille du grand leader de toutes les droites. Qui encore? Je cherche. Avant qu'il eût trouvé, un roulement d'arpèges sur un pléiel à toute pédale éclata dans le salon voisin, en même temps qu'une note, un cri plutôt, lancé à pleine gorge par une voix de femme, attaquer la belle cantilène de Banville. Ah, quand la mort que rien ne saurait apaiser nous prendra tous les deux dans un dernier baiser. Après le « ah » de l'attaque, tout s'écroulait, s'égouttait dans un diminuendo rapide, haletant où la voix mourait, n'était plus qu'un souffle, précipitant les notes déclinantes. Madame Valfond, la femme du ministre, ma mère, répondit tout bas le jeune berger à l'interrogation muette du reporter. Il ajouta d'un ton léger de persiflage. Elle a chanté plusieurs fois dans la soirée, mais il lui reste encore de la vapeur, elle la dégage pour la fin. Et maintenant, je vous demande la permission de me retirer,
murmura l'énorme dessinateur du graphique qui tombait dans son album comme écrasé sous cette suprême avalanche musicale. Le reporter, ayant trotté tout le jour les mêmes pistes que lui, ne semblait guère plus un gambe. C'étaient les deux derniers par-dessus du vestiaire. Pour s'en assurer, sans doute, le secrétaire particulier reconduisit ces messieurs jusque sous la véranda et, tout en frissonnant dans sa jaquette à fleurs et sa culotte enrubannée, tandis qu'un angélus vibrait au lointain parmi les brouillards pâles de la Seine. « Vous êtes heureux, messieurs, dit-il, d'aller prendre un peu de repos. » Le reporter filait comme un rat sans répondre. L'homme du graphique, arrêté le temps d'allumer un cigare aussi gros que lui, se retourna stupéfait.
« Mais vous ne travaillez pas à cette heure-ci. »
« Comment donc? Le ministre est déjà à son bureau, je dois le rejoindre bien vite. » Et nous allons tailler des croupières à Bismarck. » Le jeune diplomate ajouta, montrant ses fanfreluches, « En berger Watteau, des croupières à Bismarck. Il me semble que c'est assez Choiseul, Pompadour et Vieille France. » Il salua du bout de sa petite main de singe, finement gantée, jeta par-dessus son épaule en traversant le hall immense. « Il n'y a plus personne, grand Varlet. » Dans les salons silencieux aux parquets étincelants, où flottait encore une odeur composite de poudre de riz, de truffes, de fleurs de serre, ou des brindilles de tulle, de papier doré, des grelots, des banderoles, traînées parmi toutes les épluchures d'un somptueux cotillon, les hautes glaces irisées et lumineuses reflétaient au passage la silhouette surannée d'un jeune berger de trumeaux qui battait de joyeux petits entrechats à l'idée du bon somme qu'il ferait jusqu'à midi, et riait tout seul en songeant « Dire qu'il croit que je vais tailler des croupières à Bismarck !» Pendant que le dessinateur du graphique, sur le quai désert, blanc de verglas, plissait sa grosse face de rides ironiques et répétait en se pouffant « Dire qu'il croit que je crois qu'il va tailler des croupières à Bismarck !» Devant un buffet qu'on desservait, au premier étage, le secrétaire particulier s'arrêta pour boire un cocktail carabiné, puis entra dans le petit salon où une femme, dont on ne voyait que la tête aux yeux longs et lourds, aux belles lignes fatiguées et le savant décolletage crépi comme un mur de mosquée, chantait, rêvait plutôt, les mains sur le clavier d'un grand pléiel. « Où est le patron ? » demanda le jeune homme à mi-voix. N'ayant pas de réponse, « Et Florence, est-elle couchée ? » dit-il, scrutant de ses regards curieux le rideau en perles japonaises qui séparait le salon de la pièce voisine. La musicienne eut un sourire distrait. « Florence, je ne sais pas. » Puis avec passion, « Écoute. » Plaquant un accord frémissant, elle lança de toutes ses forces, « Ah, si la mort que rien ne saurait apaiser !» et resta les paupières battantes en extase. Le jeune Wilkie, que toute manifestation exagérée faisait loucher, dit exprès, très froidement, « Elle est nouvelle, celle-là, chère mère. Je ne te la connaissais pas. On me l'a apportée ce soir. J'en suis folle. » « Très chic, » murmura le jeune homme, toujours épiant. Ce qu'elle ne disait pas, ce qu'elle ne pouvait avouer à son fils, ni à personne, c'est que tout à l'heure, à cette même place et sur cet émouvant prélude, elle avait prononcé le « oui » définitif, fixé le rendez-vous où elle devait se donner. Et ces mêmes notes, 10 fois lancées, évoquaient la hantise d'un jeune seigneur de mascarade penché sur elle, effleurant ses épaules d'une haleine passionnée et recueillant enfin la promesse qu'elle lui faisait d'elle-même. « Ah, si la mort, que rien !» Au fond de la pièce tout en longueur, où Wilkie venait d'entrer, en soulevant, comme par effraction, le cliquetant rideau de perles, le maître de la maison, abrité par des tables de jeu, s'enfouissait dans un divan très bas, très serré contre sa belle-fille. Le ministre des Affaires étrangères, réduction de son père, l'acrobate Valfon, tel du moins que nous l'avons connu, de sa tête crépue de mulâtre, de sa moustache blanche et tombante, agrémentée chez le fils d'un tour de gueule faubourien, disparaissait sous les paniers et les falbalas de Mademoiselle Marquise, aussi grande à 18 ans et presque aussi femme que sa mère. Le secrétaire particulier, qui n'avait vu que sa sœur en entrant, s'arrêta tout saisi quand il aperçut, à côté du pouf de roses et des boucles poudrées de Florence, la toison laineuse du beau-père. Ce n'est pas la familiarité de cette attitude qui surprenait le jeune homme pervers, mais que sa mère, les sachant tous les deux seuls en aparté, ne s'en montra pas plus inquiète, qu'elle resta devant son piano, indifférente et lointaine, contre toutes ses habitudes. Dans l'intimité des Valfonds, nul n'ignorait en effet que le chagrin de cette vie de femme était la trop vive tendresse de son mari pour la fille qu'elle avait eue toute jeune d'un premier mariage avec son cousin, le portugais Marquez, mort d'apoplexie en pleine bourse de Marseille. Comme il arrive très souvent, ce chagrin dérivait de ce qui fut d'abord une grande joie. Que de fois, voyant son mari, cet élu du suffrage universel, ce politique redoutable et subtil se rouler sur le tapis de leur chambre avec les petits Marquez, Florence et Wilkie, qu'il appelait ses gosselins, que de fois Madame Valfond s'était extasiée pour ce goût des tout-petits, cet instinct de paternité inné dans cet être implacable. Mais quand Florence, précoce comme tous les fruits de soleil, atteignit ses 14 ou 15 ans, la mère qu'il avait eue au même âge s'émut de privautés inquiétantes prises par le beau-père et lui en fit l'observation. Valfond, acrobate de race, bien qu'ayant changé de scène et de répertoire, joua l'indignation, déclamant, en marchant de long en large, son petit pas de la tribune. « Lui, cet enfant, à qui le ferait-on croire ? Non, renoncer à une seule de leurs caresses, si candides, si pures, ce serait les avouer toutes coupables. Et puis, voyons, si Florence venait dire à sa mère « Valfond me boude, Valfond est fâché, pourquoi ? Qu'est-ce que je lui ai fait ?» La mère oserait-elle répondre ? Ne serait-ce pas troubler cette jeune pensée que de vouloir seulement la mettre en garde ? Là-dessus, il continua son jeu dangereux, leurré peut-être par son propre mensonge, affectant, avec sa grosse flo-flo, les libertés les plus tendres, les plus intimes, surtout lorsque la mère se trouvait là. Alors l'enfer s'alluma dans cette malheureuse femme, une brûlure intérieure qui lui tenait toute la poitrine, qu'elle emportait dans le monde avec elle et qui la calcinait, creusait ses yeux, ses épaules, sans lui arracher un cri ni une plainte. À qui se plaindre d'ailleurs ? Son mari, elle y avait renoncé. Son fils, au premier mot qu'elle essaya, ne fit que rire de ses soupçons. Il savait pourtant à quoi s'en tenir, et mieux que personne. Mais sa perversité professionnelle prenait aux péripéties de l'aventure un certain plaisir de voyeur, sans compter que Valfond se montrait charmant pour lui, l'installant dans son cabinet, l'initiant aux affaires, paternel enfin. Voyez-vous que pour une toquade de femme jalouse, agitée par son retour d'âge, il alla se brouiller avec le patron ? Et le garçon détalait sur une pirouette, laissant la pauvre femme encore plus concernée. Confier son chagrin à sa fille, certes, elle en fut tentée. Mais Florence était bien jeune, bien innocente. Il faudrait tout souligner, s'exposer à troubler cette candeur, comme disait son hypocrite mari. Elle recula devant l'atroce confidence et l'enfant continua à ne pas comprendre. C'était une superbe créature, un peu lente et lourde, de carnation éblouissante, avec des yeux bovins de fortes mangeuses, de belles dents blanches écartées et pointues. Toute petite, le vieux Valfond l'appelait la fille de l'ogre, et le nom allait bien à cette gamine d'une sensualité inconsciente, aimant déjà les bijoux et les parfums, les étoffes riches et la chair fraîche. En grandissant, dans le luxe qui l'entourait, ce goût d'un bien-être doré n'avait fait que s'accroître, et pour que rien d'impur ne s'y mêlât encore entre la perversité fraternelle et les hypocrites tendresses d'un Valfond, il fallait qu'une force occulte d'innocence veillât sur la jolie Florence, se tut le protecteur invisible qui garde la jeune fille toute blanche à travers les souillures. Le monde officiel, témoin de ce drame de famille que les Valfonds croyaient absolument caché, le suivait, s'y intéressait. Quand ils entraient dans un salon, dans un théâtre, les deux femmes en avant, derrière elles, la figure chafouine du ministre, on épiait leurs moindres sourires et attitudes. On en faisait des symptômes et des pronostics, et si, pour certains, tout était consommé depuis longtemps, d'autres s'imaginaient au contraire que Valfond, raffiné jouisseur, restait exprès au bord de son désir. Tous admiraient l'énergie vitale de ce petit vieux que la passion, au lieu de le détourner de ses ambitions politiques, exaltait dans un surcroît d'astuce et d'activité. La brusque nouvelle du mariage de Florence avec le fils Jacquan fut une stupeur. On soupçonna d'abord quelque invention du maître Fourbe. « Attention, la carte va passer !» Mais quand le bruit se certifia que la longue silhouette indolente du jeune Claudius se fut montrée plusieurs fois à l'opéra dans la loge des Valfond, accompagnant Florence et sa mère, quand le ministre lui-même eut annoncé le mariage comme très prochain, sans qu'il y eût rien de changé dans leurs apparentes façons d'être à tous les trois, les plus affirmatifs commencèrent à douter de ce qu'ils assuraient la veille. Et bientôt, avec cet emportement délicieux qui donne aux opinions de la société quelque chose de détraqué et d'enfantin, personne ne voulut plus entendre parler de cette douteuse affaire qui fut définitivement classée. Jamais pourtant elle n'avait été aussi intéressante à suivre. Désespéré par le mariage de Florence, Valfond trouvait de tels avantages à la combinazione qu'il eût agi follement en ne s'y résignant pas. En effet, si en sa qualité de président du conseil, il s'était engagé à donner, le lendemain de la signature du contrat, à Tony Jacquan, le riche soyeux lyonnais, le ministère de la Marine, disponible depuis un mois, en retour, le père Jacquan promettait de payer les dettes du ministre, qui, avant que l'amour lui tînt tout le cœur, était un joueur aussi malheureux qu'enragé. Il devait, en outre, lui faire les fonds d'un grand journal, influence indispensable à qui veut rester grand et fort en politique comme en littérature. Le plus illustre et le plus pratique des écrivains de ce temps, Victor Hugo, a été le premier à le comprendre. Cette force du journal avait manqué jusqu'alors à Valfond. Durant ses fréquents passages aux affaires, il avait disposé largement des feuilles ministérielles de toutes les plumes parasites des fonds secrets. Mais le journal à soi, pour les temps difficiles, la disgrâce et le chômage, l'arme aveugle, chargée à toute heure, c'est dans la corbeille de sa belle-fille qu'il devait la trouver, sous les dentelles de Flandre et d'Angleterre. Seulement, la fatalité voulait que cette occasion se présentât quand sa femme distraite par un flirt sans conséquence avec ce joli blondin, ami de Wilkie, ne se montrait plus jalouse, quand Florence, longtemps engourdie et muette, commençait à vibrer sous les flatteries et les caresses de son beau-père. Comme si ce Claudius Jacquan n'aurait pas pu retarder sa demande de 2 ou 3 mois. Pour se rendre compte de la crispation furieuse où vivait depuis quelque temps le ministre des Affaires étrangères, il faudrait feuilleter l'officiel de cette époque, surprendre dans notre politique extérieure, tellement prudente d'ordinaire qu'elle en paraît peureuse, les coups de tête et les détentes de nerfs, résultat des chagrins intimes de Valfond. Cette nuit, surtout, durant le bal en l'honneur des fiancés si galamment travestis, le président du conseil avait manifesté une humeur de sanglier, fonçant sur tout ce qu'il approchait, petits et grands, dont le moindre contact s'attirait un coup de boutoir ou de griffe, tandis que, par un contraste assez ordinaire, Madame Valfond, rayonnante, accueillait ou congédiait son monde d'un sourire de langueur et de bienveillance. Mais qu'est-ce qui se passe donc chez nous ? Songeait le jeune Wilkie, surprenant Florence et le ministre dans cette intimité si près de sa mère. Il toussa pour les avertir, puis s'approchant, Serette, on va publier dans le graphique un beau portrait de toi en marquise. J'ai donné ta photographie et celle de Claudius. Tu conduis le menuet avec ton fiancé. Pour un reporter qui était là, j'ai appuyé sur le mot « ton fiancé ». Il ne l'est plus. Comme ça se trouve ? La belle jeune fille avait relevé la tête et son frère, seulement alors, s'aperçut qu'elle pleurait. Il balbutia « Qu'est-ce qui t'arrive, mon petit Flo ?» La réponse fut dans le premier salon, derrière les perles tremblotantes, le cri à toute gorge de Madame Valfond. « Ah, quand la mort, que rien ne saurait apaiser, nous prendra tous les deux dans son... » Elle n'eut pas le temps de finir. Le ministre était debout, ivre de rage, criant, les poings crispés, dans un démentiel oubli des convenances. « Vas-tu te taire à la fin, tonnerre de Dieu !»
Florence et Wilkie pâlirent en se regardant. Jamais ils n'avaient vu traiter leur mère avec cette brutalité. Celle-ci apparut, indignée et frémissante.
« Le service est encore sur pied, on t'a entendu » dit-elle froidement.
Il eut honte de sa violence, surtout en présence des enfants, essaya de plaisanter, sans souci des fausses notes qu'amènent ses habiles changements d'intonation.
« J'ai fait la grosse voix pour t'appeler, enclouer ton contralto. Nous avons besoin de toi ici. Demande à Florence ce qui lui arrive. »
Elle regarda sa fille.
« Quoi donc ?»
Florence voulut parler.
« Mon mariage ! Fini ! Fracassé !»
Sa voix se brisa dans un sanglot. Tout de suite, la mère s'assit à côté d'elle sur le divan, lui prit les mains, attendrie de sa peine, mais ne pouvant y croire. Quel enfantillage ! Ils avaient dû se disputer à propos de superstitions, de pratiques religieuses. Sûrement, ce n'était pas sérieux.
« Si, si, très sérieux !»
Et, tout empourpré de larmes sous sa coiffure Louis XV, l'infortunée marquise tamponnait ses joues, gâtait son fard et ses mouches.
« Mais enfin, puisque tu connais sa tocade, à ce bon Claudius !»
disait Madame Valfond, si heureuse cette nuit-là qu'un chagrin à quelqu'un d'aimé ne lui semblait pas admissible.
« Pourquoi lui parler religion ?»
Le ministre demanda vivement.
« Ainsi, c'est vrai, il y a de la bondieuserie dans votre brouille ?»«
Autre chose aussi, mais cela surtout !»
Il eut un rire cynique qui brida, plissa tous les traits canailles de sa face.
« C'est trop fort. D'où sort-il donc ce grand Jocris pour croire à ses niaiseries? Ils ne sont plus que deux catholiques en France, lui et puis un autre, qui est mort il y a longtemps. »
Wilkie salua le mot du patron comme une ancienne connaissance et, après s'être suffisamment esclaffé,
« Tu sais, Valfond, dit-il, ne t'y trompe pas, la génération qui arrive est croyante et mystique aux candardes. »
Possible, le ministre haussait les épaules. Dans tous les cas, je ne sais pas ce qu'il réclame, ce Claudius Jacquin. Pour lui faire plaisir, j'ai consenti au mariage à l'église, ce qui va mettre en rogne tous mes électeurs de Belleville. Que lui faut-il de plus ?
Apaisée au contact de sa mère, la jeune fille répondit simplement, sans trop d'émotion,
« Il lui faut une autre femme que moi, il ne me l'a pas cachée.
Tu es folle !»«
Non, maman, pas moi. C'est lui qui est subitement devenu fou de cette petite Dina, la sœur de Raymond. »«
Bigre, voilà qui est sérieux !»
Le secrétaire avait parlé entre ses dents. Valfond l'interrogea d'un ton bourru.
« Pourquoi sérieux ?»
« Mais, patron, parce que cette petite, avec son chaperon de bergère, nous a tous ensorcelés cette nuit pendant les deux menuets. Le vieux Desjarines et Marjavel et le gros Numa, tous allumés. Moi qui étais le cavalier de la fillette, je le sais mieux que personne et ne puis m'étonner que Claudius ait pris feu à distance et si rapidement. »
Valfond, le masque inerte, debout en face du divan où Florence et sa mère étaient assises, se rongeait les ongles avec fureur, seul indice d'agitation intime chez un homme toujours maître de lui.
« Voyons, Flo-Flo, dit-il tout à coup, que s'est-il passé entre vous, très exactement ?»«
Voilà !»
La jeune fille parlait, les yeux entreclos, écrasant sur l'épaule nue de sa mère le savant échafaudage de sa coiffure, fracassant à chaque mot les branches d'ivoire d'un petit éventail indien très délicatement travaillé, qu'elle étendait et rapprochait nerveusement avec un bruit de castagnette.
Sitôt que Mademoiselle Eudeline est arrivée dans le costume d'Hélène de Luys, Claudius n'a plus été le même. Distrait, grognon, toujours à guetter cette petite bergère de Lilliput. Entre deux menuets, il n'y a pas tenu, il a fallu que Raymond le présente à sa sœur. Ils ont valsé deux fois ensemble. Il l'a conduite au buffet où je les ai suivis. Ah, il ne faisait guère attention à moi. Je voyais la petite naine minaudée mordiller son sorbet du bout des dents en parlant de l'efficacité de la prière. Quand je vous disais que la religion se mêlait de notre rupture, ils en ont causé tout le temps. Très forte en théologie, la petite, avec ses médailles bénites battant sur son décolletage. Fatiguée de tous ces manèges, j'ai prévenu M. Jacquan que s'il dansait encore une fois avec la jeune télégraphiste, tout serait cassé entre nous. Il m'a répondu qu'il s'était malheureusement engagé pour la prochaine berline. « Eh bien, dégagez-vous !» Et je l'ai regardé s'en aller vers sa danseuse, tandis que l'orchestre préludait. Il avait l'air de réfléchir, d'hésiter.
« Il hésite toujours, dit Wilkie, c'est sa nature. »«
Ce n'est pas la mienne !»
Sur ce mot, prononcé avec colère, Florence s'était redressée et, le visage enflammé par l'offensant souvenir,
« Tout de même, il a dansé la berline avec elle !»
Un flot de larmes nerveuses l'empêcha de continuer et le petit éventail laissa tomber toutes ses branches d'ivoire sur le tapis. Madame Valfond, bouleversée par l'émotion de sa fille, quoique songeant à d'autres histoires, lui prit la main avec de vagues consolations.
« Laisse-la donc finir !» gronda le ministre.
« Oh, c'est tout !» murmura la jeune fille.
« Ce Claudius n'a-t-il pas eu l'insolence de venir ensuite me chercher pour le cotillon que nous devions danser ensemble ?» J'ai prétexté un malaise, lui laissant la ressource de s'asseoir près de moi et d'essayer de se faire pardonner. Mais il est retourné à sa télégraphiste et ils ont cotillonné tous les deux jusqu'au matin. Croyez-vous que c'est un lâchage ?
Il y eut un moment de silence et d'angoisse. Dans le frisson du petit jour blanchissant les vitres et les lumières, dans le sourd roulement de Paris qui commençait à vivre, les pas furtifs des serviteurs, le cliquetis des lustres qu'on éteignait, ça et là, l'éclatement d'une bobèche, le sursaut d'une flamme agonisante au fond d'une glace, ces quatre personnages si disparates d'idées et de costumes, ce berger et cette marquise Louis XV, ce ministre de la Troisième République en habit noir, le grand cordon d'un ordre russe autour du cou, tous groupés dans un coin du petit salon de jeu, se regardaient anxieusement, ne laissant voir que la moitié de leurs pensées. Tant d'événements s'étaient joués d'eux durant ce bal déjà à l'état de rêve. Les violons du menuet de Mozart, sur leurs mesures correctes, presque solennelles, en emportaient des illusions, des espérances, ils en laissaient bien quelques-unes aussi. Des larmes d'orgueil, énormes et brillantes, baignaient les larges yeux de Florence, ceux de sa mère fulgurée, des éclairs d'une joie inavouable, et malgré tout ce qu'il perdait au mariage manqué de sa belle-fille, Valfond songeait avec délice qu'elle ne partirait pas, qu'il pourrait encore la tenir sur ses genoux, contre son cœur. Aussi n'était-ce qu'une demi-colère qui fronçait sa moustache en reprochant à sa femme d'être cause de tout le mal avec son engouement pour cette famille de gueux.
« Comment ça s'appelle-t-il donc ? Ah oui, les Odeline. Tu nous as d'abord amené le fils, une tête de garçon coiffeur qui cherche à décrocher un beau mariage avec son fer à papillote. Après le frère, la sœur, cette petite Dina, qui me paraît une fameuse roublarde, elle aussi. »
Madame Valfond protesta vaillamment.
« Tais-toi, la sœur, je te l'abandonne. Je l'ai vue une fois, je ne la connais pas. Mais lui, Raymond, cette existence admirable, ce martyr de la famille, beau comme Jésus à 20 ans et crucifié toute sa vie, cela, c'est trop divin, trop au-dessus de ton chétif égoïsme. N'en parle pas, je te le défends. »
La fièvre de sa veille, l'amour, l'indignation, l'outrage de tout à l'heure, restaient sur son front dans une ride apparente, tous accordés pour exalter, transfigurer cette ancienne belle femme qui, avec ses épaules et ses bras superbes, retrouva pour quelques instants les lignes pures de son visage d'autrefois. Elle était montée à ce point que, sans la présence des enfants, elle eût crié à son mari, à ce méchant, à ce fourbe dont elle avait tant souffert.
« Oui, celui dont tu parles est beau, et je l'aime. Et cette nuit, ici, tout près, je me suis promise à lui, tu m'entends, promise. Et puis, parle, essaie de parler. J'aurai des choses à répondre, moi aussi. »
Et le mari le comprit si bien, il se sentit devant une telle explosion de colère qu'il n'insista pas. Après tout, si j'y perds un journal, le vieux Jacquan y perd un ministère, car il ne peut pas supposer que je le prenne à la marine après l'algarade de son fils.
Oh, Claude n'y tenait pas à voir son père ministre. Il aurait été forcé d'aller lui-même à Lyon surveiller leur fabrique.
Florence, debout devant la glace et déjà un peu consolée, parlait tranquillement de sa mésaventure en retirant les fleurs de ses cheveux. Son beau-père lui prit la taille avec cette tendresse ambiguë que signifiaient ses moindres gestes auprès d'elle.
« Va dormir, va, ma Flo-Flo, tout n'est pas dit sur cette affaire-là. Si Jocris, que soit ton Lyonnais, il comprendra qu'on n'a pas besoin d'épouser une petite fille de rien, dont il est si facile de faire sa maîtresse. »
Florence secoua la tête.
« On voit bien que tu ne le connais pas. »
« Elle a raison, patron, » dit Wilkie, occupé à remettre en ordre l'éventail de Florence. « Clauduse est un bonhomme qui se croirait perdu d'honneur en ce monde et damné dans l'autre s'il faisait la cour à une jolie fille pour un autre motif que le bon. Je suis donc persuadé que s'il est vraiment amoureux de Dina, il ira la demander à sa maman. Il y mettra le temps, par exemple, car c'est une oscillation perpétuelle, ce garçon-là. Cela tient à sa longue taille. » Aussi, je déclare à ma chère Florence que pour peu qu'elle y tienne... » Il approchait de sa sœur sa petite figure flétrie et malicieuse que vieillissaient encore les satins éclatants de son costume. « Je me charge de la réconcilier avec Claudius avant qu'il ait fait la moindre démarche et de raccommoder leur mariage aussi facilement que cet éventail. » Elle prit le bijou dont les pièces semblaient très habilement rajustées.
« Comment feras-tu ? »
Ceci est mon secret et je ne le confierai qu'à notre mère qui nous aidera l'instant venu. Tu entends, maman ?
Quoi donc ? Demanda Madame Valfond, retournée à son rêve.
Le ministre, qui déchiffrait sa femme couramment, ricana de sa voix fausse.
Vous voyez bien qu'elle n'y est plus, la pauvre mère. Le sommeil l'écrase. Allons-nous coucher, mes enfants ?
Pendant qu'ils regagnaient leurs chambres, ces chambres de ministère somptueuses ou coquettes, auxquelles un tapissier intelligent, surveillé par Wilkie, l'artiste de la famille, s'était efforcé d'enlever leur aspect d'ancien hôtel garni, la petite Dina, cause bien innocente de toute leur agitation, dormait à côté de sa mère, ou peut-être faisait semblant de dormir, derrière le paravent, au fond du magasin de la lampe merveilleuse. Madame Deligne aurait bien voulu faire causer sa petite, lui demander des détails sur le bal, mais l'enfant tombait de sommeil, et avec cette difficulté des gens d'âge à se rendormir passé une certaine heure, la pauvre mère avait toutes les peines du monde à rester immobile, dans la demi-obscurité d'une veilleuse, en écoutant le souffle imperceptible de sa fille à côté d'elle, et le pas nerveux de Raymond dans la petite chambre au-dessus. Quoi qu'il eût ramené sa sœur depuis près d'une heure, l'aînée ne pouvait se décider à se mettre au lit. À demi défublé, il allait de long en large sous le plafond, si bas que la poudre de sa coiffure le frôlait. Puis il s'arrêtait, regardait en pitié le lit de fer, l'armoire et la table en sapin, trois chaises dépareillées. Ah, ces contrastes de nos existences parisiennes, toutes brillantes sous le lustre, diamants ou paillons, puis s'éteignant au retour, dans le noir des inquiétudes, de la misère au logis, quelles pensées mauvaises ils peuvent faire naître dans l'esprit d'un jeune bachelier sans le sou, rien qu'un habit noir et quelques belles relations, lorsqu'au sortir d'une fête mondaine, il retrouve au matin son triste garni ou le sordide logement de la famille. Quelle songerie féroce sur les revendications sociales au pétrole, à la dynamite, si le garçon est méchant et que sa détresse tourne en envie. Si c'est seulement un médiocre, un faible, que d'heures perdues en songements, en rêveries stériles et vaniteuses. Devant la table chargée de livres de droit, où Madame Valfond, en robe de bal, dans un cadre de peluche prétentieuse, resplendit de tout l'éclat de ses yeux et de ses épaules, Raymond tenait la lampe haute et piaffait d'orgueil en songeant que cette femme, la femme d'un homme d'État, une de celles dont l'Europe s'occupe, assise à son piano il n'y a qu'un instant, lui racontait tout bas l'intime de sa vie, ses détresses morales, murmurait à son oreille « Aime-moi, console-moi !» Pendant qu'elle parlait, le rythme d'une valse lointaine berçait les aveux de cette voix profonde, un peu voilée. Du monde s'approchait, sénateurs, députés, ministres, diplomates, cravatés de vert ou de rouge. Des crânes illustres s'inclinaient, des accents étrangers la remerciaient de sa fête. Elle ne se détournait pas, répondait à peine, une main sur le clavier, l'autre serrant les doigts effilés qui sortaient d'une manchette brodée de marquis,
ses doigts qu'elle pétrissait, qu'elle broyait de toute la force aveugle de ses nerfs, sans se soucier d'être vue. Oh, le regard narquois de ce bossu, un député ami du ministre, venant féliciter Madame Valfond du succès de son menuet, ce regard d'ironie lubrique et d'envie qui suivait la courbe du beau bras nu de la femme jusqu'à ce geste de caresse. Que n'aurait-il donné, celui-là, pour être à la place de Raymond, recevoir comme lui l'hommage d'une passion semblable, même au prix de la misère, au prix de ce hideux galetas. De son lit, derrière le paravent, la mère, qui surveille tous ses pas, l'entend descendre à tâtons remplir sa carafe à la cuisine et lui demande à demi-voix « Tu ne te couches donc pas, mon chéri ? Tu vois bien que tu ne dors pas non plus, toi, maman. » Et Dina ? Oh, elle est tombée dans le lit comme une pierre. Elle a dû danser beaucoup. Toute la nuit, c'était sûr du reste. Son menuet a été un triomphe. Les mamans ne savent jamais rien, ou du moins jamais assez. « Quelle petite cachotière !» chuchote la voix de Madame Adeline. « Elle ne m'a rien dit de tout cela. Même je lui trouvais en se couchant la figure préoccupée. » Raymond s'approche du paravent et tout bas. « Tu es sûre qu'elle dort ? Alors écoute. Ce qu'était ta fille en bergère, ce qu'elle les a toutes mises dans la poche de son tablier, tu ne te l'imagines pas. J'entendais de tous côtés, mais d'où sort ce bijou ? Jusqu'à Marc Javel. Le nôtre ? Oui, notre Marc Javel, qui ne quitte plus les Valfond parce qu'il y a un ministère vacant dans le cabinet, la marine, qu'il espère obtenir. Celui-là aussi, ta fille lui a fait une fière impression. Il faut qu'elle vienne danser chez lui à un bal qu'il doit donner pour l'anniversaire de sa nièce Jeannine. J'ai promis en ton nom et au mien, tu penses. Marc Javel peut nous être très utile, et c'est un homme si cordial, tellement serviable. On se fait des idées fausses sur les gens. Ainsi, M. Mauglas, l'écrivain, tu te le rappelles, à les entendre, c'était un policier chargé de suivre les réfugiés russes à Paris. On avait des preuves. Antonin nous est revenu de Londres très affirmatif là-dessus. Eh bien, rien du tout. J'ai rencontré Mauglas au bal de cette nuit, très entouré, très choyé, tout le monde parlant de sa dernière étude sur les danses corinthiennes dans la revue. Si cet homme a l'air d'un mouchard, par exemple, il nous a dit des merveilles sur les origines du menuet, et moi, j'étais très fière de le retrouver là. Derrière son paravent, Madame Adeline est bien fière et bien contente aussi de songer que Raymond et Dina connaissent tout ce beau monde. Que de joie pour le pauvre père s'il pouvait voir ses enfants lancés ainsi dans la société parisienne. Et, agité par ses espérances maternelles, par la perspective du splendide avenir qui s'ouvre à ses enfants, la bonne dame se tourne, se retourne, fait craquer le lit de fer à deux places, au chevet duquel veille la Madone en plâtre, avec le tableau de première communion de sa fille et de grand chapelet béni, pendu contre la muraille. Tout à coup, la voix baissée, la bouche près du paravent. « Et toi, mon Raymond, tes succès, tu ne m'en parles pas ? Mais tu en as eu, je suis sûre, tu es heureux ? » « Au-delà de tout, mère !» dit Raymond tout bas avec emphase. « Tu le mérites bien, tu es si bon, si beau !» Elle ne peut pas le voir, mais se le représente, son joli blondin, en culotte courte, souliers à boucles et catogans. Sa carafe qu'il tient à la main embourgeoise un peu le geste, mais la mère n'y pense pas. « C'est elle surtout qui est bonne et belle, vois-tu, maman ?»« Ah, si tu la connaissais !» Tu as raison, il y a un air de bonté sur sa figure. Tous les jours, je la regarde en faisant ta chambre. Il n'y a que son âge que je ne m'explique pas bien, car enfin, Wilkie a 22 ans comme toi. C'est vrai que je me suis mariée vieille fille et elle toute jeunette, m'as-tu dit. Une enfant, ma mère, une petite enfant dont le premier mari s'est amusé comme d'une poupée et que l'autre a fait souffrir. Ah, le misérable, qu'il n'essaie pas de recommencer. Elle aurait quelqu'un pour la défendre maintenant. Madame Adeline a un moment d'effroi. Prends garde, mon chéri, ce Valfond est un homme redoutable. Je ne le crains pas. Voici 2 ans que je fais des armes, 1 heure par jour, à l'association. D'ailleurs, rassure-toi, ajoute-t-il en entendant le soupir épouvanté de la pauvre mère. Valfond est aussi lâche que méchant. Il passe pour très fort, on le prend comme arbitre dans les affaires d'honneur, mais il ne se bat jamais. Là-dessus, bonne nuit, ma chère maman, ou bonjour plutôt, je monte me coucher. Heureusement, Raymond n'a pas descendu sa lampe et la vague clarté de la veilleuse cachée encore par le paravent ne permet pas à Madame Adeline de voir un léger sourire flotter autour des lèvres entrecloses de la petite Dina qui, les yeux fermés, le souffle rythmé par le sommeil, ne perd pas une de leurs paroles.